Nous allons parler de l'histoire de l'Afrique, d'un morceau d'Afrique, mais qui intéresse l'ensemble du continent aujourd'hui dans notre magazine. Nous allons en effet parler d'une histoire écrite par les Africains eux-mêmes en prenant l'exemple de Djigba Camara en Guinée. Cet homme, interprète puis chef de canton en Haute-Guinée, a écrit durant la colonisation un texte d'une centaine de pages qui s'intitule « Essai d'histoire locale ». Cette étude concerne son village d'Amaro. L'histoire de ce manuscrit, ou plutôt de ce tapuscrit, était elle-même singulière. On doit à Elara Berthaud et Marie Rodet la mise en perspective et la publication de ce texte dans un livre publié chez Brill. Elara Berthaud est avec nous. En sa compagnie, nous allons parler de l'aventure de ce texte et de ce qu'il dit aussi, évidemment. Nous avons donc le plaisir de vous proposer un nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez télécharger afin de l'écouter quand vous le souhaitez sur le site de la radio www.rfi.fr et sur votre moteur de recherche préféré. Bonjour Elara Berthaud.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ah, je suis ravi de vous retrouver, nous avons le plaisir de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes normalienne, agrégée de lettres modernes, docteur en littérature et chargée de recherche au CNRS LAM. LAM, ça veut dire les Afriques dans le monde, je crois que c'est à Bordeaux, non ?
Tout à fait.
On en avait parlé la dernière fois quand vous êtes venu pour nous parler de votre livre précédent, Sorcières, tyrans, héros, mémoire postcoloniale et résistants africains chez Honoré Champion. C'était en 2019, une émission qui a beaucoup été appréciée, que nous avons rediffusée avec plaisir également. Cette fois-ci, Elara Berthaud, vous nous emmenez à la rencontre d'un historien local et qui est un symbole pour de multiples raisons. Il s'appelait Djigba Camara. Il faut d'abord situer l'univers géographique dans lequel nous allons évoluer pendant 50 minutes.
Tout à fait. Alors nous sommes à Damaro, dans un village à 800 km de Conakry, dans une région enclavée dans les montagnes du Simandougou, qui sont presque plus près du Mali que de la capitale Conakry. Donc il faut 2 jours pour s'y rendre.
Et vous avez testé ? On en parlera tout à l'heure.
Testé en faisant étape à Cancan, effectivement. À Damaro, il y a une tradition de conservation de manuscrits et de textes et d'écriture de l'histoire qui est méconnue. Et l'idée était de donner à voir et d'éditer sérieusement ces textes-là pour montrer que des Africains ont écrit l'histoire africaine pour les Africains.
Alors ce livre, Essai d'histoire locale de Djigba Camara, qui est son texte, on va évidemment y revenir, est aussi un livre personnel. Vous commentez, vous préfacez, vous mettez en perspective ce document avec Marie Rodet dans ce livre publié chez Brill. Il faut d'abord parler des circonstances de la découverte de ce manuscrit et avant cela dire que cette histoire locale, cet exemple d'un individu, Djigba Camara, a valeur quasiment générale pour l'histoire de l'Afrique. Il représente quelque chose.
Oui, absolument. Il s'agit d'un intermédiaire, donc d'un interprète qui a écrit l'histoire de son pays à partir de son village, mais de toute la région. Et il a en fait raconté l'histoire de son père, qui était l'un des plus proches collaborateurs de Samori Touré. Samori Touré, c'est cet empereur qui a forgé un empire énorme qui s'étendait du Mali à la Côte d'Ivoire en intégrant une grosse partie de la Guinée.
Je renvoie nos auditeurs à l'émission précédente,
d'ailleurs,
la vôtre.
Et qui s'est opposé à la fois aux troupes françaises et aux troupes britanniques, et qui a résisté pendant une vingtaine d'années. Il avait un conseil restreint, et parmi ce conseil restreint, il y avait le père de Djigba Camara, qui s'appelait Fata Keuleng Camara, qui a été très important, qui a joué un rôle politique au sein du conseil restreint de Samori Touré, et qui s'est donc battu contre les Français. Et en 1893, revirement de la part de Fata Keuleng Camara, il décide de signer l'armistice avec les Français et en gage de paix, il offre son fils, Djigba Camara, celui dont on édite le texte, qui va aller à l'école des fils de chef de Kaï. Et grâce à cette instruction française, il va pouvoir intégrer les rouages de la colonisation et devenir un de ces nombreux intermédiaires, interprètes, qui sont à l'interface entre les populations administrées, colonisées et l'administration française, qui ne dialoguait pas sans interprète. Peu d'administrateurs pouvaient comprendre leurs administrés. On a du mal à se rendre compte à quel point la colonisation se faisait sur fond d'incompréhension réciproque. Et ce sont ces personnages-là, interprètes, qui étaient fondamentaux dans la pratique de la colonisation. Et donc cet homme a une carrière dans l'administration et décide d'écrire l'histoire de sa région au fil du temps.
Et donc, et là, nous sommes à la fin du 19e et au 20e siècle.
Alors, il intègre l'école des fils de chef, oui, à la fin du 19e, et il sort interprète en 1900. Et ensuite, il a une carrière qui est intéressante, que je vais développer un petit peu. Il est tout de suite accusé d'entrave à la politique coloniale. Il ressemble un peu à ce personnage littéraire de Vengrin, du romancier, qui est un filou un petit peu, qui tire parti de sa position pour tirer un prestige, pour établir une stratégie de notabilisation, en quelque sorte. Et donc lui est accusé d'empêcher les contacts entre la population et l'administration, ce qui est l'inverse du rôle d'un interprète, évidemment.
En effet.
Donc il est muté à Béla, il est de nouveau suspendu pour machination politique. Mais il est tout... Ce qui est intéressant, c'est que il a des rapports qui sont assez négatifs à son encontre, mais en même temps, il est tout le temps réembauché.
Il est jugé orgueilleux, hautain, autoritaire.
Hein. Absolument. Ouais, okay. D'autres administrateurs sont très élogieux, considèrent qu'il est lettré, fin, intelligent. Il participe à la mission franco-libérienne de délimitation des frontières, donc c'est un rôle politique, diplomatique important, mais il est révoqué à chaque fois. On l'accuse d'exiger des cadeaux de la population en échange de ses services, c'est-à-dire qu'il ne traduirait pas bien si jamais on lui donne pas des cadeaux. En échange donc de ses services de traduction. Et donc ensuite, il travaille à la Banque d'Afrique de l'Ouest de Conakry. Mais ce qui est intéressant dans ces notations négatives de la part des administrateurs, c'est que souvent, on l'accuse de consulter sans autorisation les archives. Et ça, c'est un point intéressant dans sa carrière. Ça veut dire que ces mauvais rapports qu'on peut retrouver aux archives d'Aix-en-Provence et aux archives de Conakry montrent que pour un Africain dans ces années-là, il n'était pas possible de commencer un travail d'historien. Consulter les archives était un privilège de blanc. Et donc, ces notations négatives nous sont intéressantes pour nous en tant que historiens faisant l'histoire intellectuelle de cette population lettrée. Ils montrent que déjà, être historien, c'est une transgression contre l'ordre colonial. C'est déjà une démarche post-coloniale, anticoloniale, d'écrire l'histoire.
Parce qu'on sait qu'il a le désir, la volonté d'écrire, de faire de l'histoire.
Hein, c'est-à-dire on de, le de sait restituer par ses notations, et il l'écrira ensuite plus région. Tard. Ouais. Et il veut écrire l'histoire de sa région. Il ne veut pas laisser aux Blancs le privilège de l'écriture de son histoire.
Cette démarche est très singulière. On va y revenir tout au fil de cette émission, Elara Berthaud. Mais je voudrais que nous parlions d'abord, avant de rejoindre Djigba Camara, des circonstances qui ont fait que vous avez rencontré cet homme tout à fait par hasard.
Oui, c'était au tout début de ma recherche sur Samori Touré, donc je voulais reconstituer toutes les sources des sources africaines de l'histoire de Samori Touré, ce résistant à la colonisation. Et pour cela, je me suis intéressée à la carrière de l'historien Yves Persson, qui a écrit l'histoire de Samori Touré en 3 volumes énormes et qui avait interrogé plus de 900 informateurs. Donc je me suis rendue à Paris 1, à la bibliothèque de recherche africaine, dans le laboratoire LIMAF, l'Institut des mondes africains. Et donc, j'ai pu avoir accès à tous ces cartons de cet administrateur colonial. Donc, c'est-à-dire que lui avait fait sa thèse d'histoire tout en étant administrateur colonial.
Position singulière également.
Position singulière, oui. Il faisait partie de cette génération qui avait fait l'ENFOM, l'École nationale de la France d'outre-mer, qui était une génération d'administrateurs de la toute fin de la colonisation convaincus de la nécessité des indépendants. violence. Comme Roland Collin, par exemple. Donc c'est une génération qui a voulu accompagner les indépendances et qui s'est intéressée à l'histoire africaine du point de vue des Africains. Et donc, il a été un des premiers à comparer les archives européennes aux sources orales africaines. Et pour faire ça, donc, il utilisait son travail d'administrateur, donc dans cette pratique de la tournée. Donc, il partait à cheval, interroger les populations pour son travail d'administrateur, donc pour collecter les impôts, pour collecter le nombre de naissances, de décès. Et il en profitait pour poser des questions sur l'histoire. Il rassemblait le village, il demandait aux notables, dont il enregistrait les réponses sur des petits cahiers que j'ai pu consulter, quelle était l'histoire de Sundiata Keïta, comment elle était racontée chez vous, comment racontez-vous l'histoire de Samori Touré, comment les Blancs sont arrivés, quelles étaient les stratégies d'alliance dans les années 1880, 1890, 1900, etc. Et donc, dans les années 50, il a pu collecter ces matières orales africaines, et donc moi, je pensais aller trouver des sources orales africaines dans des cahiers. Donc, c'est ce que j'ai trouvé, bien sûr, à Paris 1, mais j'ai aussi trouvé des sources écrites africaine. Et ça, c'est plus rare dans ces années-là de trouver des sources écrites qui ne sont pas mentionnées en tant que sources écrites. Et donc, du coup, c'était un vrai étonnement de découvrir un manuscrit de cette ampleur, 110
Alors,
pages.
Un texte de 110 pages, effectivement, intitulé « Essai d'histoire locale ».
Voilà. Et donc,
ce qui vous a intrigué.
Ce qui était très étonnant, et donc j'ai décidé de l'éditer parce que donc Yves Persan essayait avant l'heure de faire ce qu'on appelle maintenant une histoire à part égale, pour reprendre l'expression de Romain Bertrand, c'est-à-dire avoir autant le point de vue des Européens, des sources coloniales et des sources africaines. Et donc là, l'idée était d'éditer une source africaine pour l'histoire africaine. Sauf que on a commencé des démarches auprès de Bril. J'ai commencé à travailler avec Marie Rodet.
Donc votre éditeur.
Voilà.
Qui est un éditeur universitaire. D'ailleurs, votre texte, votre travail est écrit en français et en anglais aussi.
La source est donc écrite en français et l'éditeur a demandé à ce qu'elle soit publiée également en anglais. Donc, il y a eu un gros travail de traduction en anglais pour qu'elle soit disponible à un public universitaire en anglais.
Alors, donc, Ella Roberto, vous commencez à travailler sur ce texte.
On commence avec
Contente,
Marie Rodet.
Heureuse d'avoir trouvé une source très intéressante.
Tout à fait. Pensant militer pour l'histoire des sources africaines. Voulant faire une histoire à part égale. Sauf que on a voulu faire une histoire à part égale sans la famille. Et donc la famille a eu vent de notre entreprise d'édition et elle ne savait pas que le texte de leur aïeul était publié,
dans les archives d'Yves Persan à Paris. Oui.
Et donc nous a envoyé une lettre menaçante nous demandant d'arrêter tout de suite toute entreprise de publication sous peine de procès. Évidemment, quand on reçoit cette lettre, on est atterré. C'est-à-dire que notre intention, oui, absolument. Il s'agissait pas du tout de vouloir porter atteinte à cette famille, et on était tout à fait malheureuse de voir cette entreprise d'édition tomber à l'eau. Donc, on arrête évidemment. On va pas du tout publier sans le soutien de la famille.
Mais rebondissement.
Mais rebondissement. Marie Rodet, qui est donc historienne à la SOAS à Londres, à l'école des langues orientales de Londres, rencontre lors d'un colloque Mohamed Touré du Parti démocratique de Guinée, donc le fils de Sékou Touré, qui se prend de passion pour notre projet et qui, bien que dans le parti adverse d'Alpha Condé, prend contact avec l'honorable Amadou Damaro Camara, qui est président de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, rien de moins, et qui fait partie de la famille des descendants de Djigba Camara.
Alors, mine de rien, vous arrivez, Ella Roberto, avec votre travail, avec votre démarche, au cœur de la vie politique de la Guinée. Hein.
Exactement, on s'y attendait pas du tout. C'est fait partie un peu de l'aventure de ce manuscrit. Et on se retrouve au sein du cœur du RPG, donc du Rassemblement du Peuple de Guinée, à se retrouver au sein d'une famille qui est extrêmement influente et qui, du coup, change d'avis. Sur notre entreprise de recherche. Et donc, nous avons pu obtenir des financements grâce à Marie Rodet pour se rendre sur place, rencontrer la famille, expliquer notre travail scientifique, expliquer également que tous les bénéfices d'une telle édition reviendraient s'il y en avait. Dans l'édition scientifique, il n'y en a pas, mais s'il y en avait...
On l'espère cette fois-ci, on l'espère.
C'est peu probable. Reviendraient à la famille. En revanche, tous les frais de traduction seraient à notre charge. Et on mentionne que notre travail est un travail de revalorisation des sources, et ce qui, bien sûr, a plu à la famille. Et donc, nous sommes rendus à Conakry.
Il faut raconter quand même les circonstances dans lesquelles vous êtes arrivés, parce que ce fut quand même un long voyage.
Absolument. Donc, on arrive à Conakry avec une caméra pour enregistrer ces témoignages. Et ensuite se rendre à Damaro, donc c'est 800 kilomètres, c'est 2 jours de voyage, c'est une route honnête jusqu'à Cancan et ensuite de la piste. Donc le deuxième jour est un peu plus éprouvant que le deuxième. Et on se rend compte au fil des discussions avec Daouda Camara, le fils de Djigiba Camara, qui est un vieux monsieur et que je salue maintenant, que cette histoire d'un manuscrit entreposé benoîtement dans les archives à Paris avait en fait une histoire incroyable, c'est-à-dire qu'il est encore considéré par la famille aujourd'hui comme un grand texte qui aurait dû être publié par Yves Persson et qui n'avait jamais été publié en France, qu'il y avait eu des promesses de publication qui n'avaient pas été tenues par l'administrateur. Et que la famille en gardait un souvenir amer, et que Daouda voulait continuer le travail de son papa et avait réécrit sans cesse ce texte, et donc était devenu maintenant un manuscrit de 2000 pages, qui est une œuvre totale de l'histoire du continent africain, ce dont on n'avait absolument pas idée.
Ce qui veut dire qu'il y a deux versions. Il y a la version d'origine, ce texte de 110 pages, qui était donc dans les archives d'Yves Persson et qui constitue le cœur de votre livre. Ouais. Et il y a cet autre livre qui a continué son fils à partir des notes de son père.
Voilà, et on comprend maintenant qu'il était absolument outré de savoir qu'on allait publier sans son autorisation. Et donc, une fois que nous sommes arrivés avec lui, on s'est entendu sur ce qu'on voulait faire. Donc nous, on voulait éditer vraiment cette source d'un historien des années 50. Et il a accepté de répondre à toutes nos questions. Il est devenu très enthousiaste. Et donc, il est venu avec nous au village, dans son village natal, très heureux d'être entouré de deux historiennes françaises qui, du coup, enfin entendaient cette parole de son père. Et on a eu la surprise de voir l'ensemble du village réuni pour nous accueillir.
Alors, vous avez enregistré des images et des sons. Grâce à vous, nous allons pouvoir écouter quelques sons. Et grâce à vous, nous allons pouvoir commencer par écouter le fils de Djigiba Camara, Daouda Damaro Camara, je crois, parce qu'il faut rajouter le nom du village dans le patronyme, et qui lit un texte de son père. On a l'impression que c'est son père qui parle. Écoutons-le, vous nous commenterez après cette intervention.
Ce que nous recherchons, un seul but, c'est l'édition, la publication de l'ouvrage de notre papa. Moi, personnellement, il m'a parlé et dit, je compte sur toi pour mener à bout cet ouvrage. Je n'en finirai pas avant ma mort, mais j'ai des enfants et je te fais confiance. Bats-toi contre vents et marées pour que cet ouvrage soit publié. Ce n'est pas pour de l'argent que j'ai écrit, c'est pour relever un défi. J'ai eu la chance d'aller à l'école des otages à Kai, de 1894 à 1900. Je suis sorti interprète. C'est un administrateur ami qui m'a conseillé, Djigiba, tu as eu la chance d'aller à l'école. En Afrique, il y a très peu de gens qui ont cette chance. Commence à écrire la tradition, à collecter les traditions de votre pays. Sinon, dans quelques années, les derniers survivants vont disparaître et tout va être perdu à jamais. Donc c'est ainsi qu'il s'est mis à écrire.
La voix du fils de Djigiba Camara est assez étrange parce qu'on a l'impression que c'est son père qui parle. Il donne l'impression de lire un texte de son père. C'est lui qui parle.
C'est lui qui parle à son nom, et c'est intéressant parce que il fait comme s'il était son père, Djigiba Camara, oui, racontant son histoire. Et en fait, c'est mimétique de la démarche de Daouda lui-même, c'est-à-dire qu'il a repris toute sa vie l'œuvre de son père. Et toute sa vie, il s'est mis dans la peau de son père, continuant son œuvre d'historien de la région, de la Guinée et de l'Afrique tout entière.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce texte est un beau texte. Je veux dire qu'il a été tapé à la machine. Ce ne sont pas quelques notes griffonnées sur un carnet. C'est un vrai texte. Il y a une vraie démarche, on en parlera tout à l'heure, dans la présentation aussi de ce manuscrit.
Oui, absolument. C'est ce qui m'a frappé dans les archives. C'est que tombe pas tous les jours sur un manuscrit de cette ampleur-là, dont la vocation est d'écrire du point de vue des Africains, avec cette conscience presque postcoloniale, d'écrire l'histoire d'un autre point de vue que celui des Blancs.
Alors, je voudrais lire les premières phrases de ce livre. C'est une sorte de préface, en quelque sorte, hein, qui est, ce livre est dédié, dit-il, c'est le début du livre, à mon ami. On sait de qui il s'agit ?
Alors, il s'agit d'un interprète avec qui était un ami d'enfance, et il s'est fâché avec cet ami d'enfance. Ils se sont entre-accusés mutuellement de tirer des bénéfices de leur statut. Il s'agit de Kéfine Danzé, qui est un rival, et ils se sont ensuite réconciliés à la fin de leur vie. Donc ce texte signe cette réconciliation.
Je lis le début, la première ligne de ce texte que vous publiez donc dans ce livre. Donc texte de Djigiba Camara. « Je suis à un âge où l'homme sent qu'il n'est pas éternel. Je n'ai pas voulu passer inaperçu. Il n'y a pas d'orgueil à bénéficier des progrès des anciens. J'ai voulu montrer qu'ici-bas, je n'ai pas été inutile. C'est pour cela que j'ai écrit à mes heures de liberté mes moments perdus. J'ai écrit sur le passé de nos pères en ce coin d'Afrique. Les Sundiata, les Samori, les Eladj Oumar sont africains. Ils nous manifestent les originalités même de notre pays. J'ai voulu ébaucher un travail ardu. J'ai essayé de jeter une lumière crue sur un passé ténébreux. J'ai fait de l'histoire sans égocentrisme. Il était nécessaire qu'à l'heure où, devant la montée des conceptions européennes, notre passé tend à s'incorporer à une histoire générale, des voix s'élèvent, des hommes parlent, des chercheurs en mal d'inédit chantent les gloires, les misères de nos aïeux. » C'est un très beau texte qui commence.
Absolument, et on voit ici son intention, c'est-à-dire deux lignes plus loin, il dit qu'il écrit dans le but d'éclairer les jeunes et devant la montée des concepts européens, d'aider à nous comprendre pour nous aimer. Et donc il y a cette idée que l'histoire africaine doit se dire avec les sources orales et les sources écrites qui existent. Contrairement à ce qu'on
oui, peut que ce que certains
dire,
disent, oui.
Et que la compréhension du passé permet de se projeter pour les générations futures dans un avenir serein.
Et donc, et il ajoute que cette histoire est un enseignement civique.
Voilà. Donc pour lui, l'écriture de l'histoire est un impératif pour se comprendre et se construire. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est cette portée. Qui lui donne. Écrire l'histoire africaine n'est pas seulement un devoir d'historien, c'est un devoir civique. Et donc, c'est pour ça qu'il a entrepris ses enquêtes. Il a interrogé Adam Arrow des Griots, les détenteurs de la tradition orale, son propre père qui était un ministre de Samori, et donc et des archives coloniales, ce qui lui a été reproché. Et donc, on comprend mieux son intention en lisant ses premières lignes. Et il écrit dans les années 50, à un moment où il y a des élections en Guinée, il est élu à l'Assemblée territoriale en suppléant donc d'un Français qui s'appelle Paul Tétot, qui va décéder très vite, donc il y aura d'autres élections. Il deviendra l'un des premiers opposants de Sékou Touré, qui devient conseiller territorial de Bella. Donc il écrit dans un contexte aussi dans les années 50, enfin depuis les années 30 jusqu'aux années 50, où son autorité commence un peu à vaciller. Et donc il écrit pour donner aux nouvelles générations conscience de leur histoire et une nouvelle voie hors des histoires écrites par l'administration française.
Et ce texte, Ella Roberto, est daté de 1955, c'est précis.
Oui. Oui, donc le texte tapé à la machine, en partie par ses enfants, en partie par lui. Cette version-là date de 1955 et donc ensuite, il ne cessera de le retravailler. Mais la version qu'il donne à l'administrateur français Yves Persson, historien en tournée, qui passe par Damaro, date de 55. Et cette histoire, il la continuera jusqu'à sa mort. Et ensuite, elle sera reprise par son fils.
Sa mort, c'est-à-dire en 1963, je crois,
oui.
Non ?
Oui, absolument.
Donc au début de l'indépendance de la Guinée.
Voilà.
De Sékou Touré, justement.
De Sékou Touré, absolument, qui, lui, fait campagne pour l'abolition des chefs de canton. Or, Djigba Camara était chef de canton pendant très longtemps, donc de 1928 à 1963. Donc il tire parti de cette position d'intermédiaire comme d'une stratégie de notabilisation. Donc, effectivement, il ne peut être qu'opposé à Sékou Touré sur ce point de vue-là.
Ah, grâce à vous, Elara, nous allons pouvoir écouter un hymne qui lui est dédié. C'est un hymne qui s'appelle l'hymne Djigba Camara, c'est ça, tout simplement ?
Oui, alors, lorsque nous sommes allés avec Marie Rodé au village de Damara, nous sommes rendus compte qu'il y avait des chants qui étaient toujours chantés par les femmes du village en l'honneur de Djigba Camara. Donc, c'est intéressant de voir à quel point cette archive textuelle en fait recèle tout un univers littéraire et musical. Et donc cet auteur n'est pas du tout un auteur oublié et un petit coin d'archive, mais il est extrêmement son souvenir est extrêmement vivant. Et donc ce chant est donc fonctionne sur une griotte qui chante et qui est ensuite donc les femmes lui répondent.
On va l'écouter. On va écouter un premier extrait.
Koniyama o koniyama, koniyama. Otogwani koma korelo, nugwani funga mone.
Koniyama o koniyama,
koniyama.
Osegwani koma korelo, nugwani funga mone.
Koniyama o koniyama,
koniyama.
Otogwani koma korelo, nugwani diba wene.
Koniyama o koniyama,
koniyama.
Osegwani koma
Koniyama o koniyama,
koniyama.
Moto gwani koma korelo, no gwani funga mone.
Koniyama o koniyama,
koniyama.
Mufengwani koma korelo, kegwani jiba ulene.
Koniyama o.
Un premier extrait de l'hymne à Djigba Camara, Koniyama. Je ne sais pas si je prononce bien en malinké. De quoi s'agit-il ? Je crois qu'il s'agit d'une métaphore en quelque sorte.
Absolument. Donc c'est le même couplet qui est répété plusieurs fois. La chanson dit que on trie le coton et que dans cette entreprise on garde une partie, on jette les impuretés. Donc c'est une métaphore. La partie gardée est la vérité et la partie rejetée c'est le mensonge que l'on jette au loin. Et donc cette chanson traduit le sens de la justice et de l'équité de Djigba Camara lorsqu'il rendait justice quand il était chef de canton. Et donc on chantait cet hymne à l'arrivée de Djigba lorsqu'il était accompagné du commandant du cercle de Bella pour louer son sens de la justice.
Donc c'était décidément un homme puissant.
C'était absolument un homme puissant.
Parce que rendre la justice est un acte de puissance.
Il était donc chef de canton comme je l'ai dit, il avait 16 femmes. Donc ce chiffre en lui-même montre la puissance de cet homme qui a pu nouer des stratégies matrimoniales, d'alliances. Et donc c'était véritablement un homme extrêmement puissant. Lorsque nous sommes arrivés, on nous a donc chanté ces chants-là, ce qui pour nous était très émouvant parce que ça donne une densité, une chair à l'histoire et aux manuscrits en tant qu'historien. On n'a pas toujours l'impression que ces archives vibrent.
Et là, elles sont effectivement.
Elles sont absolument incarnées, c'est le contraire. La concession avait été repeinte pour nous, avec le nom de Djigba Camara, les dates auxquelles il avait accédé à la chefferie, et ses chansons qui donnent vraiment la mesure de la manière dont cet homme est encore célébré aujourd'hui.
Alors, il nous faut parler de ce texte, à proprement parler, de cet essai d'histoire locale, Elara Berthaud. C'est un texte que j'ai lu en faisant quelques effort, parce qu'il n'est pas d'un abord très facile, ne serait-ce que dans sa construction.
Oui, c'est un texte qui relève de plusieurs traditions historiographiques. Il dit...
Quel est son objectif d'abord ?
Alors, son objectif est d'écrire l'histoire d'un point de vue local, et il relève à la fois d'une tradition historiographique qu'on pourrait dire de relever de l'administration coloniale française, qui demandait à ses intermédiaires et aux interprètes et à tous ces instituteurs qu'il avait formés de rédiger des monographies de cercle ou de rédiger des coutumiers, c'est-à-dire des listes de coutumes et de juridiction locale sur lequel l'administration coloniale pourrait se fonder pour rendre la justice. Donc nous avons effectivement des listes de...
C'est là qu'on s'y perd un peu.
Voilà, donc c'est effectivement d'un abord parfois un peu ardu, disons. Et donc on a des listes de noms, mais on a aussi des relevés de mythes et de fondations, de contes qui sont très intéressantes. Et aussi l'histoire de Samory Touré et l'histoire du village. De première main, grâce à des sources orales, donc il y a à la fois cette tradition de sources écrites héritées de la colonisation, de sources orales que Djigiba a recueillies directement auprès des griots ou directement auprès de son père, et tout ça se fait un mélange un peu hétéroclite. Ce texte est fondamentalement hybride, et donc à la lecture il peut être un peu d'abord
il est
complexe.
Il est intéressant mais très déconcertant effectivement, Elara. Donc il commence au 13e, 14e siècle avec l'arrivée des Konés du Soudan. Il explique après l'installation des Camaras, la fameuse lignée des Camaras. Et ensuite, il y a des considérations à la fois familiales, guerrières, sociales, tout est mélangé.
Voilà, c'est comme c'est je disais, un texte hybride qui est intéressant, valeur. Qui donnait aussi toute l'importance à une vraie édition annotée, c'est-à-dire que ce texte doit être expliqué pour en montrer la richesse. Sinon, il est d'un abord un peu aride. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il permet de montrer que au ras du sol, comment se passaient les guerres, comment se nouaient les alliances, parce que nous, on n'a que le point de vue des archives coloniales françaises. Or là, on a de l'intérieur comment se passaient les alliances entre les clans. Samory devait sans cesse naviguer entre plusieurs alliances différentes. Les Camaras l'ont aidé dès le début, et ensuite les Camaras se sont un peu placés, enfin cette partie-là des Camaras un peu en retrait, d'avoir un peu aidé ce jeune chef fougueux qui est devenu un empereur d'un empire dont il n'avait pas idée au départ. Et puis, ça permet de complexifier l'histoire de l'Empire de Samory, de montrer qu'il y avait des stratégies guerrières, d'alliances, de batailles internes dont on n'avait pas idée, et parfois de venir invalider les sources coloniales. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce grand siège que fait Samory contre le royaume de Kénédougou à Sikasso, on n'a que des sources coloniales françaises qui, parfois, sont erronées. Et donc, Djigiba Camara permet de redonner un point de vue plus juste. Et Yves Persson, dans sa thèse, écoute beaucoup ce que dit Djigiba Camara et, parfois, invalide les thèses des Français en prenant appui sur ce texte de Djigiba Camara. Et donc ça, à ma connaissance, c'est assez rare dans les années 60 de voir un historien français invalider des sources françaises pour donner la parole à un historien de l'intérieur.
D'ailleurs, Djigiba Camara parle de l'arrivée des Français d'ailleurs dans la région.
Hein ? C'est ce qui est intéressant, c'est que il a un point de vue de première main pour montrer comment son père s'est déjà opposé aux Français et ensuite change d'avis et en 1893 fait alliance avec les Français. Et donc, c'est ce qui fait que le texte de Djigiba Camara est un petit peu étonnant, c'est qu'il change d'avis sur Samory Touré. C'est-à-dire qu'au départ, il dit que c'est un grand chef, guerrier, très impressionnant. Et puis ensuite, il dit non, mais en fait, c'est un tyran.
Et c'est là qu'on voit le Camara politique.
Exactement, c'est qu'en fait, ça retrace le changement politique de sa famille.
Alors on y parle aussi, et c'est en revanche des passages qui sont passionnants, et Elara Berto, des superstitions, de l'honneur, des compétitions entre familles. À propos des superstitions, il écrit ceci, la vie indigène de ce temps-là, on ne sait pas exactement de quel temps il s'agit, c'est assez réparti dans le temps justement, la vie indigène de ce temps-là est toute de superstition, l'homme de ce temps pratiquait une sorte de religion animiste, tout acte a une répercussion proche ou lointaine sur la vie, les cris de certains oiseaux, les rêves, les actes coutumiers de la vie journalière étaient les signes précurseurs d'événements qui se réalisait souvent. Et il note les gestes qui ont trait au malheur, les gestes qui ont trait au bonheur. C'est-à-dire que si votre orteil droit bute en allant à la chasse, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de bonheur dans votre vie. En revanche, si votre orteil gauche bute, lui, là, c'est mauvais signe.
Là, on sent
là, c'est très drôle comme
la tradition comme... des coutumiers.
Très intéressant, surtout.
Donc, il s'agit vraiment d'une tradition qu'on peut retrouver dans certaines archives où on demandait à ces interprètes et ces chefs de canton, ces instituteurs
de tout noter,
de noter des coutumes locales, d'en faire des listes. Donc, vous voyez, elles sont numérotées. 1, 2, 3, 4, 5,
si vous avez des démangeaisons inopinées dans la plante du pied, je le cite, ça veut dire que vous avez envie de voyager. Hein. Ouais. C'est un voyage en vue. Hein. Si vous avez vu de grosses chenilles rouges traversant la route, coupées en deux, vous aurez de la viande, la tête dans le sol, mort d'un proche.
Voilà, donc c'est des textes qui...
Alors si le pardon, je ne résiste pas à deux autres citations. Si le caméléon a la queue verticale, c'est signe de bonheur. Mais si la vipère traverse la route, c'est signe de bonheur également.
Voilà, donc on a ces listes qui aujourd'hui nous semblent un peu étranges, mais qui en fait étaient des vraies demandes des administrateurs qui leur servaient à rendre la justice en fonction de ce que ces listes indiquaient. Et donc... Dans ce cas-là, on voit qu'il y a des demandes qui sont répercutées auprès des interprètes. Et il s'agit en fait de rendre la justice dans un contexte où l'administration coloniale n'a pas assez d'argent pour être présente partout. Donc pour gouverner à moindre coût, on a besoin de demander aux interprètes de faire ces listes-là pour avoir une colonisation en fait qui se fait à plusieurs niveaux et dont les interprètes sont un rouage très important et ces coutumiers en sont la trace, c'est-à-dire qu'ils sont des aides conservés dans les archives encore aujourd'hui. Donc ce texte porte à la fois la marque des coutumiers avec des listes, des sous-listes qui sont un peu étonnantes et à la fois mêle un vrai discours historique sur Samory, sur l'arrivée des Français.
Et jusqu'à une époque assez contemporaine, parce qu'il y a une petite notice, 1939-1948.
Oui, c'est-à-dire que tout à la fin, il fait de l'histoire contemporaine.
Alors là, il écrit ceci, Elara, vie très dure, 1939-1948, vie très dure due à la période d'après-guerre. L'industrie locale tend à remplacer les produits d'importation. La vie est très dure et les artisans, les professionnels de tout métier se confirment dans la pratique de leur industrie. Nécessité est mère d'industrie, entre parenthèses.
Oui, on voit dans la toute fin du texte qu'il a à cœur de montrer une vie quotidienne. Il donne aussi des exemples de prix. Et donc, ces exemples de prix nous permettent de voir un peu comment se fait l'inflation, de montrer que la population locale, effectivement, souffre de cette période-là. Et donc, la fin du texte correspond plus à nos standards historiographiques. Elle est beaucoup plus accessible pour nous. Et elle permet de montrer comment, sous les Français, la colonisation a été vécue dans les villages. Et c'est un témoignage assez rare des répercussions de la montée des prix, par exemple, d'un point de vue local.
Et là, je vous propose d'écouter un deuxième hymne à Djigiba Camara. Grâce à vous, c'est un autre enregistrement.
Kamenya bana, 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 kamenya bana
Alors, deuxième hymne en l'honneur à la mémoire de Djigiba. De quoi s'agit-il ? Là, je crois qu'il s'agit de vieillesse, de l'âge, du temps qui passe.
Du même groupe de femmes du village de Damaro.
Avec toujours la griotte Mawa Kouyaté.
Que je salue et voilà, que je remercie pour ses très beaux chants. Je suis très heureuse qu'elle passe à la radio. Et donc, en substance, elle dit que ceci, Djigiba Camara, donc, qui était responsable de Damaro et des jeunes, et que s'il vieillit, la jeunesse n'aura plus de leader. Donc il s'agit de montrer à quel point Djigiba Camara était important, que c'était le chef et le chef des générations à venir aussi. Ce qui est intéressant parce qu'il dit aussi qu'il écrit pour la jeunesse, donc on voit à quel point il est tourné vers les générations futures.
J'ai voulu que nous parlions de votre travail, Elara Berto, à nouveau, parce que singulièrement pour ce livre de Djigiba Camara, vous avez fait de l'ethnologie, en plus.
Oui, cette source est
quelle aventure intellectuelle.
Singulière. On se rendait pas du tout compte que cette source avait cette histoire-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que derrière ce texte historique, on se rend compte qu'il y a en réalité trois générations qui racontent en quelque sorte l'histoire de la Guinée. Le père, Fata Keulen Camara, a été un des ministres de Samori. Le fils, Djigiba Camara, a été chef de canton, interprète, élu à l'Assemblée territoriale. Historien local, et le fils Daouda Camara a collecté ce texte de son père, a voulu le continuer toute sa vie, a fui le régime de Sékou Touré en 1972 en emportant quasiment que ce texte, a entretenu des relations avec les historiens de son temps, Denise Bush, Ibrahima Babakaké, Amadou Mpateba, a voulu toute sa vie continuer l'œuvre de son père, est revenu ensuite à la fin du régime revenir en Guinée, et donc en fait derrière une source en apparence anodine dans des archives d'un historien français, en fait on se rend compte qu'elle est extrêmement vivante et qu'elle raconte un pan de l'histoire africaine, des résistances à la colonisation, à la collaboration en quelque sorte. Cette collaboration en fait est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit et elle montre des stratégies d'agentivité, enfin en tout cas de notabilisation des colonisés eux-mêmes qui tirent parti de la colonisation pour garder le pouvoir, et ensuite de ce que c'est être un intellectuel détenteur de récits sous Sékou Touré, qui était très inquiet de la puissance des intellectuels. Et donc voilà, c'est toute une histoire bien plus riche et bien plus incarnée que l'on voit ici, derrière une source en apparence érudite, anodine. En fait, elle révèle bien plus que ce qu'on imagine.
Et surtout, les circonstances de la découverte de ce manuscrit me font dire qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres qui, eux, n'auront pas la chance de croiser Elara Berto et Marie Rodet.
Vous êtes très gentil. En fait, il y a effectivement cette catégorie qu'on appelle les intermédiaires dans l'historiographie anglo-saxonne, qui est en train d'être travaillée aujourd'hui par de nombreux chercheurs. Pascal Barthélémy a travaillé sur les institutrices, les infirmières, et Nathalie Carré, par exemple, a travaillé sur les récits de voyageurs Swahili, donc dans les mêmes époques, donc dès 1890, et elle montre comment les guides, les traducteurs, tous ces rouages de l'administration ont été fondamentaux dans la conquête et dans la compréhension des territoires, mais elle permet de donner une autre histoire, l'envers de l'histoire coloniale. Par exemple, ce personnage de Selim Bin Abakari qui voyage du canal de Suez à Aden, à Naples, il va jusqu'à Saint-Pétersbourg et il raconte qu'il rencontre des musulmans en Russie et il revient à Zanzibar. Xavier Dufin a édité cette année un autre regard sur l'histoire congolaise et également des documents Swahili. Il montre comment les commerçants de Zanzibar comme Tipotip racontent eux-mêmes en Swahili l'histoire de la colonisation. Donc voilà, l'histoire coloniale ne se dit pas que dans les langues coloniales, pas que en français et en anglais, qu'il y a des nombreuses histoires qui sont encore à traduire, encore à éditer, qui dorment soit dans les archives archives coloniales françaises, donc soit dans les archives personnelles françaises, comme c'était le cas pour les archives de la Bibliothèque des Recherches Africaines, soit en Afrique, dans les archives privées, dans des malles, des cantines.
C'est ce que je m'apprêtais à souligner, Elara Berthaud. Il faut lancer en quelque sorte un appel à toutes nos auditrices et à nos auditeurs qui doivent bien regarder dans leur malle, dans leur grenier chez eux, parce qu'ils ont peut-être des documents qui peuvent intéresser les historiens.
Il y a de l'édition à faire. C'est une entreprise importante de réhabilitation de ces documents. Et donc l'édition des sources est fondamentale pour porter un autre regard, plus nuancé, une vraie histoire à parts égales, grâce à ces sources qui sont encore à collecter.
Ça veut dire qu'avec votre génération, la nouvelle génération et Lara, il y a une démarche différente, parce que Yves Persson n'avait pas eu envie de publier ce texte. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il l'a écrit quelque part, mais lui considérait que ce texte était finalement une source comme une autre et qu'il fallait
Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte. Yves Persson a été un des promoteurs des sources orales africaines, et donc il a été un des premiers à reconnaître l'importance des sources africaines et à contrebalancer les archives européennes par les sources orales africaines. Donc en ce sens,
dommage qu'il n'ait pas édité ce texte.
Il est déjà novateur, mais effectivement, il n'est pas allé au bout de cette démarche. Et cet historien, Djigba Camara, a une grande importance dans son texte, mais ce n'est qu'un numéro. C'est le numéro 5 sur 900. Donc c'est des petites notes de bas de page, c'est il est relégué dans les marges du texte. Or maintenant, ce qui est important, c'est d'éditer ces sources-là, pas seulement de leur donner une place, comme c'était déjà très important dans les années 60 de donner une place aux sources orales africaines, mais maintenant il y a un travail d'édition de ces sources à faire, qu'elles ne soient plus seulement dans les marges, qu'elles ne soient plus seulement considérées comme des informateurs, mais comme des historiens à part entière. Donc il s'agit de montrer la part africaine de la bibliothèque coloniale. C'est une expression d'Étienne Smith dans Les Hussards Noirs de la Colonie, consacrée aux instituteurs africains. Il s'agit de montrer que il y a une part africaine de ces textes que l'on a sous la main, et il faut les éditer.
Les éditer si possible, en Afrique aussi. Que ça parte d'initiatives africaines, dans la mesure du possible.
Mon grand désir, Brill est un éditeur donc des Pays-Bas, qui a une grande audience dans les universités américaines et anglo-saxonnes, mais le livre est très cher, à mon grand désespoir. La prochaine étape, c'est d'éditer ce texte en Guinée, auprès d'un éditeur guinéen, pour que le prix en soit plus accessible. Et donc ça, c'est la prochaine étape. J'espère que le coronavirus nous laissera repartir. Et la prochaine étape, c'est proposer ce texte en Guinée.
En attendant, pour nos auditeurs qui ont été passionnés par ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une possibilité pour eux d'aller plus loin, d'aller de retrouver des sites, des informations?
Absolument. Sur le site de Libération, nous avons fait il y a 2 ans un premier entretien avec Jean-Pierre Bay et Vincent Iribarren. Donc, si vous tapez Djigba Camara sur le site de Libération, vous tomberez sur cette page avec une photo de Djigba Camara qui est conservée par la famille et que vous retrouverez. Et une présentation de ce texte en accès libre.
En tout cas, il faudra écouter et réécouter cette émission aussi pour mieux connaître Djigba Camara. Et je voulais vraiment vous remercier pour cet acte intellectuel, pour cette démarche que vous avez faite, qui en plus vous a donné un peu le goût de l'aventure. Ce qui ne gâche rien.
Je m'attendais pas du tout à ça en travaillant dans des archives, mais oui, j'ai été happée.
Et je vous souhaite d'autres aventures aussi. Merci Lara Berthaud. Avec Marie Rodet, vous avez donc édité, publié et mis en perspective ce texte donc édité chez Brill. Il s'intitule « Essai d'histoire locale » par Djigba Camara, l'œuvre d'un historien guinéen à l'époque coloniale. C'est un livre qui est écrit en français et traduit aussi en anglais, ce qui est aussi un travail considérable.
C'est une version bilingue.
Merci Lara Berthaud. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez notre magazine sur le site de la radio à la page ID ou sur votre moteur de recherche préféré pour l'écouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez aussi aller sur la page ID de RFI ou la page ID RFI de Facebook. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.